Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Déchaînement de violence ce soir en Norvège. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées par un homme armé d'un arc à flèche. Il a été interpellé. On y revient dans un court instant. Une mosquée va fermer ses portes près du Mans. Ordre du préfet. Elle est soupçonnée de prêcher un islamisme radical. Reportage sur place dans ce journal. Les forces de l'ordre appelées à la plus haute vigilance. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, Gérald Darmanin a envoyé un télégramme au préfet. Louis Dragnel a pu le consulter pour Europe 1. Vous reprendrez bien un peu de passe sanitaire jusqu'en juillet prochain si nécessaire. Le projet de loi est validé, il sera discuté à l'Assemblée. Lucas Hernandez pourrait bientôt se retrouver en prison, le footballeur convoqué par la justice espagnole pour non-respect d'une mesure d'éloignement. La météo, ce seront de bonnes nouvelles à la fin de ce journal. L'invité éco à 22h20, on s'intéressera à la start-up française Swile, spécialisée dans les titres restaurants et qui cartonne. Et puis on découvrira les gros titres de demain matin dans les quotidiens.
Europe 1.
D'abord donc cette tuerie qui s'est produite en fin de journée en Norvège. Plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées. Diane Berger, l'assaillant était armé d'un arc à flèche.
Oui, l'attaque a eu lieu en fin de journée vers 18h30. C'était à Kongsberg, une petite ville de 28 000 habitants au sud-ouest d'Oslo. Et vous le disiez, l'agresseur a utilisé un arc et des flèches pour tirer sur ses victimes dans plusieurs endroits de la ville. Selon des médias locaux, il aurait aussi tiré à l'intérieur d'un supermarché. La police norvégienne confirme la mort de plusieurs personnes, mais sans donner de bilan plus précis pour l'instant. Plusieurs autres ont été blessés. Le suspect, un homme, a été arrêté par les forces de l'ordre. Il a été conduit au commissariat d'une ville voisine pour être interrogé et selon un responsable de la police locale, il aurait agi seul. Ses motivations ne sont pas encore connues, mais la police n'exclut pas la piste terroriste. Cette attaque arrive 10 ans après une autre tuerie qui avait marqué le pays, celle du terroriste d'extrême droite Anders Breivik, qui avait abattu 77 personnes à Oslo et Utøya.
Merci Diane Berger. On revient maintenant sur cette décision du ministère de l'Intérieur sur fond de soupçons d'islamisme radical. Nous sommes près du Mans. La mosquée d'Alon va fermer sur ordre du préfet. Elle est suspectée d'abriter des appels à la violence, voire une légitimation du terrorisme. Vous êtes allé sur place, Mathieu Bock. Les fidèles de la mosquée, Mathieu, ne comprennent pas.
Oui, ceux qui voulaient venir prier aujourd'hui ont trouvé porte close et une feuille scotchée où il était écrit « Mosquée fermée pour des raisons administratives ». La police a en effet mené une perquisition hier matin et c'est à ce moment-là que les policiers auraient signifié au président de l'association qui gère la mosquée que des prêches prônant le djihad auraient été tenus dans son établissement. Mais Mohamed, un retraité qui vit dans ce quartier paisible comme la plupart des fidèles ici, n'y croit pas.
Non, impossible ça. Tout le monde vient ici faire la prière, être sorti normal, c'est tout. Ici, il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Africains, des tout. Il n'y a pas d'imam maintenant.
D'accord.
Depuis longtemps, il n'y a pas d'imam. Il y a quelqu'un qui passe devant nous pour faire la prière.
Karim Daoud, qui gère donc cette mosquée, est bien connu ici. Il avait organisé une messe commune avec les catholiques après l'attentat de Nice l'année dernière. Et il est l'un des responsables du club de foot de la ville. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il le fera, a-t-il assuré, mais après avoir consulté ses avocats.
Mathieu Bock à la mosquée d'Alon dans la Sarthe pour Europe 1. Voyons plus précisément maintenant ce qui a conduit les autorités à cette décision. Gladys Laffitte, pourquoi donner l'ordre de fermer cette mosquée ?
Eh bien parce que les prêches et les activités de la mosquée légitiment le recours au djihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et l'instauration de la charia. Mais il y a aussi une école coranique qui accueille 110 enfants devant lesquels a été valorisé le djihad armé. Pour le préfet, il s'agit donc aussi d'un lieu d'endoctrinement. Alors cette mosquée peut être fermée pour 6 mois maximum dans un premier temps. C'est ce qui est prévu par la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ensuite, son cas sera réétudié. Elle pourra éventuellement rouvrir si la gouvernance de la mosquée a été renouvelée par exemple. Il faut savoir que cette fermeture ne sera sans doute pas la seule dans les semaines qui viennent. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en a annoncé 5 autres à venir en Meurthe-et-Moselle, en Côte d'Or, dans le Rhône ou encore le Gard. Depuis un an, les autorités ont contrôlé près de 90 lieux de culte soupçonnés d'être radicaux et mis hors d'état de nuire, je cite, un tiers d'entre eux.
Merci Gladys, vous nous le disiez, 5 autres mosquées pourraient bientôt fermer à leur tour et pour les mêmes raisons sur ordre du ministère de l'Intérieur. Un an après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, des hommages seront rendus vendredi et samedi à l'enseignant. Gérald Darmanin appelle dès maintenant les forces de l'ordre à la vigilance totale, particulièrement aux abords des écoles. Europe 1 vous révélait cette information à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur a adressé un message à tous les préfets de France, un message que vous avez pu consulter, Louis Dragnel.
Oui, dans ce télégramme que nous nous sommes procurés, Gérald Darmanin est explicite, la vigilance doit être totale. Il demande à tous les acteurs de l'État d'avoir un haut niveau de vigilance à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires. Concrètement, Gérald Darmanin demande aux préfets d'accentuer la détection des menaces terroristes partout en France et notamment sur les réseaux sociaux en lien avec l'éducation nationale, mais aussi d'accroître la mobilisation des services de renseignement pour faire remonter très rapidement toute alerte qui pourrait venir des familles et du corps enseignant. Tout acte de provocation, tout incident doivent être signalés. Et enfin, il leur demande d'analyser la menace et les mesures de sécurisation des établissements scolaires, notamment avec des policiers en uniforme bien visibles et en n'hésitant pas à s'appuyer sur les militaires de l'opération Sentinelle ainsi que sur les polices municipales.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. L'agresseur d'une enseignante de Comblaville condamné à 5 mois de prison avec sursis probatoire. Vendredi dernier, ce lycéen avait projeté à terre sa professeure en pleine classe. Une vidéo de la scène avait circulé sur les réseaux sociaux. Le jeune agresseur devra effectuer 140 heures de travaux d'intérêt général, un stage de citoyenneté, et il est interdit de contact avec la professeure. Préparez-vous à vivre encore longtemps avec le pass sanitaire. Cela n'arrivera pas forcément, mais avec le projet de loi validé ce matin en Conseil des ministres, le gouvernement se donne la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Une décision incontournable pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Cette vigilance, nous l'assumons. Nous assumons de protéger le pays comme depuis le premier jour. Il y a encore plus de 4000 cas par jour en moyenne dans notre pays et la situation ne s'améliore plus depuis quelques jours. Il y a encore 18 départements où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte de 50 et dans certains territoires, le nombre de cas semble reprendre légèrement. Il y a encore, nous le savons, un risque non négligeable de reprise épidémique. L'hiver est propice à ce type de reprise. De nouveaux variants, nous l'avons vécu, peuvent apparaître. Alors oui, nous devons rester vigilants jusqu'à l'été prochain.
Gabriel Attal avec Jacques Serret. Le texte qui prévoit cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire sera examiné par les députés mardi prochain et les débats risquent d'être agités. Les oppositions de droite et de gauche reprochent à l'exécutif de vouloir ainsi couper court au débat sur le pass sanitaire jusqu'à l'élection présidentielle. Qu'on parle du gaz, du plein d'essence ou de l'électricité, les prix de l'énergie, vous le savez, s'envolent en France, mais aussi dans toute l'Europe. Bruxelles tente de faire face et propose une sorte de boîte à outils pour aplanir les prix de l'énergie. En fait, une série de mesures disponibles pour les États membres. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Jusqu'ici, Isabelle, pas de solution miracle toutefois pour adoucir la facture.
Eh bien non, soyons clairs tout de suite, les annonces d'aujourd'hui ne feront pas baisser nos factures d'électricité, de gaz ou d'essence immédiatement. Alors grosso modo, il y a deux catégories de mesures. D'abord, celles que Bruxelles recommande, mais qui sont de la responsabilité des États, par exemple des chèques énergie comme en France ou une baisse de la TVA. Au passage, la Commission a rappelé aux 27 qu'ils ont des recettes fiscales en hausse grâce à ces prix élevés et aussi parce que les entreprises doivent payer plus pour leurs émissions de gaz à effet de serre. Les États ont donc un peu de marge de manœuvre. Deuxième type de mesures, celles qui sont bien du ressort de l'Europe, mais qui ne pourront être mises en place qu'à moyen terme, comme des achats en commun de gaz pour constituer des réserves communes. L'idée française de réformer le marché européen de l'électricité a, elle, été accueillie très fraîchement. En fait, si Bruxelles se positionne, c'est avant tout pour occuper le terrain et notamment pour protéger le pacte vert pour le climat. À l'Est, certains pays plaident déjà que, vu la situation, il faudra avancer moins vite dans la transition énergétique. Le débat sera sur la table des chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine lors de leur sommet à Bruxelles.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
On va maintenant dans le département de l'Essonne, à Vigneux-sur-Seine. Une quinzaine de policiers ont déposé plainte pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une patrouille de la BAC est tombée sur des tags d'insultes et surtout des menaces qui visent des policiers par leur nom, Marion Gauthier. Vous vous êtes rendu dans ce quartier de Vigneux pour Europe 1. Les tags visent donc les policiers personnellement, mais ce qui provoque l'indignation, Marion, c'est que certains de leurs proches, eux aussi, sont visés.
Une allusion à l'épouse d'un policier, également le terme « pétardé », une menace de faire exploser des agents inscrite en majuscules vertes sur l'escalier de la cave d'un immeuble de la Prairie d'Oly. Un point de deal connu des forces de l'ordre, souligne le maire de Vigneux-sur-Seine, Thomas Chazal.
Aujourd'hui, je pense qu'un cap est atteint en nommant leur prénom, leur nom et leur famille. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de soutien aux agents de police, si bien évidemment... Il y a ce type de tag, c'est qu'ils interviennent, c'est qu'ils dérangent, c'est qu'il n'y a pas de zone de non-droit.
Des tags en représailles, c'est aussi ce que soutient Claude Carillo, le secrétaire départemental du syndicat Alliance, insiste, impossible de s'habituer à cette pression psychologique.
Beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes, parce que c'est de l'intimidation, est-ce que ce sont des menaces qui peuvent passer à l'exécution ? Concrètement, dans un premier temps, il faudra absolument que l'anonymisation pour les policiers dans les procédures soit faite automatiquement. Ça serait déjà un pas en avant énorme.
Et cela signifie remplacer le nom des agents par leur matricule et éviter ainsi qu'un délinquant ne s'en serve pour d'autres intimidations. En attendant, hors de question de lâcher le terrain, martèle Claude Carillo. Les opérations de contrôle et de lutte contre le trafic de stupéfiants ont repris. Les inscriptions ont été effacées.
Marion Gauthier à Vigneux-sur-Seine, en Essonne. En Gironde, maintenant, un professeur de tennis de 51 ans a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Les faits auraient été commis sur de jeunes garçons à Arcachon dans les années 2008 et 2009. Les gendarmes vont de nouveau rouler en Alpine, légendaire véhicule d'interception sur autoroute. La gendarmerie nationale a commandé 26 Alpine A110 pour remplacer son parc de Renault Mégane RS. 0 à 100 km/h en à peine plus de 4 secondes. 250 chevaux sous le capot, près de 60 000 euros pièce. Laurent Wauquiez ne veut plus d'écriture inclusive dans les documents administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont il est le président. L'écriture inclusive, vous le savez, combine dans le même mot les formes masculines et féminines, séparées par un petit point. Laurent Wauquiez s'est fait son opinion, trop compliqué à lire, Jean-Luc Boujon.
Oui, c'est l'argument développé par Laurent Wauquiez dans une note interne sur le bon usage du français qu'il a fait passer début octobre aux fonctionnaires régionaux. Voilà ce qu'est écrit dans cette note. Il importe d'écrire en français intelligible par tous et donc de bannir l'écriture dite inclusive dont l'anarchie typographique méconnaît les règles de l'orthographe et de la syntaxe française. On ne comprend plus rien, confirme la première vice-présidente de la région, Stéphanie Pernaud.
C'est évidemment incompréhensible pour des personnes qui ont un handicap, par exemple, qui sont dyslexiques. Essayer de lire un mot en écriture inclusive, par exemple le mot directeur qui est découpé après le R, vous ouvrez une guillemet, vous rajoutez is avec un S encore entre guillemets parce que c'est pas forcément au pluriel, vous refermez la guillemet, vous remettez le S de directeur pour avoir une parité d'explication sur le texte. Donc si vous répétez ça sur 10, 15, 20 mots dans une note administrative, c'est absolument incompréhensible in fine sur le message que vous souhaitez produire et c'est ça en fait nous notre intérêt. C'est que notre message puisse être compris et entendu par tous.
Alors, autre exigence contenue dans cette note, limiter au maximum l'emploi des anglicismes et des sigles. Cette mesure va donc s'appliquer à tous les documents produits par la région Auvergne-Rhône-Alpes, les lettres, les courriers, les rapports. Et c'est encore un point de divergence entre Laurent Wauquiez et le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, qui a récemment, lui, fait adopter l'écriture inclusive dans la communication de la ville de Lyon.
Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Sur la planète foot, ça ne va pas très fort en ce moment pour les frères Hernandez. Théo Hernandez a été testé positif au Covid. Placé à l'isolement, il manquera donc le prochain match samedi avec son club, l'AC Milan. Plus préoccupant en revanche, Lucas Hernandez a de sérieux ennuis avec la justice espagnole qui veut le mettre en prison, Cyril de la Morinerie.
Oui, Lucas Hernandez est convoqué par le tribunal supérieur de Madrid mardi prochain car il n'a pas respecté une mesure d'éloignement après une rixe avec sa compagne. En 2017, en plus d'une condamnation à 31 jours de travaux d'intérêt général, le footballeur avait l'interdiction d'entrer en contact avec sa femme pendant 6 mois après des violences conjugales mutuelles. Sauf que le couple a été repéré 4 mois plus tard à l'aéroport de Madrid au retour d'un voyage. La justice a décidé d'alourdir la peine à 6 mois de prison. Mardi, le juge décidera de son sort. Mais les chances que Lucas Hernandez soit incarcéré sont minces, d'abord parce qu'il a fait appel, son recours va être étudié, et puis parce qu'en Espagne, les peines inférieures à 2 ans de prison ne sont généralement pas appliquées, sauf en cas de récidive. L'équipe de France de football, en tout cas, ne fait pas de commentaires, car c'est une affaire privée. En revanche, Lucas Hernandez, on le sait, a toujours été exemplaire en bleu, et s'il n'a pas joué dimanche dernier en Ligue des Nations, c'est uniquement pour des raisons sportives. En tout cas, l'agenda judiciaire des internationaux français est chargé, puisque Karim Benzema a lui rendez-vous au tribunal de Versailles, mercredi prochain pour l'affaire dite de la sextape. Quant au champion du monde Benjamin Mendy, il est incarcéré depuis le 27 août dernier en Angleterre pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le foot sur le terrain, cette fois plus précisément au stade Vélodrome où se jouait ce mercredi un match des héros, d'anciennes stars du ballon rond, des artistes, des animateurs avaient tous chaussé les crampons pour la bonne cause, un projet de l'UNICEF pour l'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire. Stéphane Burgat, vous avez suivi ce match des héros pour Europe 1.
Une pluie de buts et un parterre de stars. Didier Drogba, le héros du soir, n'a pas perdu son habitude de faire trembler les filets du Vélodrome avec encore un hat-trick, un triplé de pur attaquant.
Choqueur. Et surtout, dans un tel contexte, on a essayé de se faire plaisir et en se faisant plaisir, je pense qu'on a fait plaisir au public. En fait, je me suis rendu compte à la mi-temps que chaque but marqué, c'était 1000 euros pour les associations. Donc je dis, il faut quand même essayer d'en prendre au maximum. Donc, voilà.
Et même plaisir pour les non-footballeurs qui ont fait le spectacle à leur manière, que ce soit Teddy Riner qui arrache des bouts de pelouse à chaque frappe ou encore les petits gestes techniques de Jul, le rappeur, ou bien même le passage éclair vraiment sur le terrain de Martin Solveig, le DJ.
Ouais, relativement, ouais.
Combien de temps ?
5 minutes. Voilà, mais après, vous savez, 5 minutes pour un non-footballeur, ça fait presque, en langage footballeur normal, ça fait presque une mi-temps. Hein. Parce qu'on fait 3 fois le tour du terrain et franchement, c'est très très long, on ne se rend pas compte, c'est très haut. Je m'en remets à peine, c'était il y a une heure.
Et avec cet événement caritatif, l'UNICEF a récolté près de 450 000 euros pour les écoliers de Côte d'Ivoire.
Stéphane Burgat à Marseille. Et encore plus haut, le capitaine Kirk s'est envolé dans l'espace, pas dans la série Star Trek, mais juste dans la réalité cette fois-ci. À 90 ans, l'acteur William Shatner a profité d'un vol spatial de quelques minutes avec 4 autres passagers à bord d'une capsule Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos. William Shatner a atterri sans encombre dans le désert du Texas.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Il est 22h18 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Beaucoup d'hésitations ce soir à Wall Street avec une nouvelle fois au menu l'inflation et la politique monétaire de la Fed.
Et le Dow Jones termine stable à 34 377 points. Le Nasdaq s'en sort beaucoup mieux en hausse de 0,73%, 14 571 points. L'inflation reste donc suivie de très près sur les marchés. Et l'inflation, elle a justement accéléré aux États-Unis en septembre. Ça pourrait inciter la Réserve fédérale à aller plus vite dans le retrait de ses mesures de soutien face à la pandémie. Alors on a justement quelques indices avec le rapport de la dernière réunion de la Fed qui a été dévoilé ce soir. Le document montre que la réduction des achats d'actifs pourrait démarrer soit mi-novembre, soit mi-décembre. La Fed a étudié une réduction de 15 milliards de dollars par mois. Ces annonces n'ont pas trop pesé sur les marchés. Wall Street y était globalement préparé.
La séance a été aussi rythmée par les publications financières des entreprises.
Avec une forte baisse ce soir pour JP Morgan Chase, l'action de la banque recule de 2,6% malgré l'annonce de bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Séance compliquée aussi pour Delta Airlines qui lâche près de 6%. Le chiffre d'affaires est inférieur aux attentes des analystes et surtout la compagnie pourrait enregistrer une perte au quatrième trimestre à cause de la flambée des prix du carburant. Les cours du pétrole marquent une pause, justement, après leur récent sommet. Mais le WTI reste au-dessus de la barre symbolique des 80 dollars le baril à New York.
Le marché parisien, lui, a clôturé en hausse, soutenu par le géant du luxe LVMH et par les valeurs technologiques.
Oui, ça avait mal démarré pour le CAC 40, mais il termine en hausse de 0,75%, 6 597 points. Le titre LVMH bondit donc de plus de 3%. Après de très bons résultats financiers. Les ventes du numéro 1 mondial du luxe ont encore progressé de 20% au troisième trimestre, grâce au succès toujours de la mode et de la maroquinerie. Ça monte aussi pour Dassault Systèmes et Capgemini dans le sillage de SAP à la Bourse de Francfort. Le groupe allemand a relevé pour la 3e fois sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Les marchés européens ont terminé dans le désordre avec une progression, petite progression de 0,2% pour Londres et de 0,7% pour Francfort. Amsterdam plus 0,8. En revanche, Milan perd 0,1 et Madrid 0,6. Et à Paris, Alexandre, le CAC 40 gagne 0,75%, 6 597 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com.
Ce soir, sur Europe 1, zoom sur une nouvelle licorne française prénommée Swile. Vous savez que dans le monde des nouvelles technologies, les licornes forment un cercle assez restreint. Ce sont les startups qui valent plus d'un milliard d'euros, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Swile en fait justement partie. L'invité éco ce soir, Loïc Soubéran, le fondateur de Swile, répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Loïc Soubéran.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Swile. Alors c'est quoi Swile ? Eh bien, c'est une plateforme, une entreprise spécialisée dans les titres restaurants dématérialisés. Vous proposez également plusieurs avantages financiers aux entreprises. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous faites partie de ces fameuses licornes françaises. Alors je vais quand même rappeler ce qu'est une licorne. Ce sont toutes ces entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars. Vous venez de trouver de l'argent auprès d'investisseurs étrangers, notamment le japonais SoftBank, et vous venez de lever 200 millions de dollars. Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport aux autres entreprises que l'on connaît très bien qui vendent des titres restaurants ? Quelle est votre innovation du côté de chez Swile ?
Alors, pour faire simple, il faut savoir que nous sommes lancés il y a à peine 3 ans et demi. Et quand nous sommes lancés il y a à peine 3 ans et demi, le marché était essentiellement en papier, d'accord ? À plus de 95%, il n'y avait encore que du papier en titre restaurant en circulation. Donc on a été vraiment déjà le catalyseur de cette dématérialisation des titres restaurants papier vers justement une carte, en proposant une carte ouverte, basée sur un réseau ouvert, c'est-à-dire une carte qui fonctionne partout. Vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant, n'importe quelle boulangerie, n'importe quelle boucherie ou supermarché. Si vous avez du solde, elle fonctionnera. Vous allez me dire, mais c'est pas une grande innovation. Mais si, à l'époque, les cartes des concurrents étaient sur un réseau fermé, donc avec un réseau d'acceptation beaucoup plus limité.
Et l'autre grande nouveauté, c'est qu'elle est aussi ouverte pour tous les services, finalement, que les entreprises peuvent proposer à leurs salariés.
Voilà, donc on ne s'est pas contenté de ne faire qu'une carte titre restaurant, on a voulu rapidement faire une carte dite avantage aux salariés. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une carte titre restaurant, une carte titre cadeau, une carte mobilité, une carte vacances, vous allez pouvoir gérer tous vos avantages salariés sur une seule et unique carte, qu'on dit intelligente, donc c'est ce qu'on appelle une smart card, puisque en fonction de où vous allez dépenser, ça va utiliser le bon compte au bon moment.
Et ce qui est impressionnant, à vous le rappeliez Loïc Soubéran, vous avez été créé il y a 3 ans et demi et aujourd'hui vous pesez déjà 13% du marché français. Je crois que vous avez 13 000 entreprises clientes, 500 000 employés qui utilisent vos services. Tout avait changé, je crois, le jour où notamment Carrefour est passé chez vous. Vous vous attendiez à quelque chose d'aussi rapide ?
Je pense que les consommateurs en avaient marre de gérer du papier, et même les employeurs. Il faut savoir que gérer du papier, ça veut dire distribuer le papier tous les mois aux collaborateurs. Avec la pandémie, bon nombre de collaborateurs ont été en télétravail, donc c'était un enfer. Donc effectivement, les gens étaient en attente d'une solution dématérialisée, et aujourd'hui, on est, parce qu'on a tout misé sur l'innovation, fier de dire qu'on capte 40% des contrats qui se dématérialisent le sont avec Swile, parce que c'est le meilleur produit, tout simplement.
Quand ça va si vite et si fort, finalement, on peut se dire à quoi vont servir ces 200 millions d'euros ? Eh bien, ça va servir à se développer à l'international. Vous allez notamment vous installer au Brésil, au Mexique. On peut se dire, mais quelle idée folle. Ben non, c'est parce que là-bas, déjà depuis plusieurs années, notamment au Brésil, ils sont déjà très friands de titres restaurants et surtout, il n'y a déjà plus de papier depuis des années là-bas.
Oui, alors déjà, la première chose, c'est que vous l'avez rappelé, nous avons 13% de part de marché en partant vraiment de zéro il y a 3 ans et demi. Mais là, on est désormais 500 employés à développer la société. On ne compte pas s'arrêter là en France. On compte devenir tout simplement leader du marché en France. Donc une partie de la
somme. À quel horizon ?
Encore dédiée dans quelques années.
Ça veut dire quoi, quelques années ?
Encore 50% du marché est encore en papier et 50% aujourd'hui en carte.
Mais dans votre tête, quand est-ce que vous serez premier ?
Dès lors que le papier n'existera plus.
Ça, ce n'est pas vraiment une réponse, parce que ça pourrait être quasiment demain, du coup. Parce qu'il faut voir que l'ultra leader pour le moment, c'est ce qu'on appelle les tickets restaurants. Hein. C'est une marque qui appartient à Edenred. C'est lui votre gros concurrent à dépasser ?
Il y a 4 concurrents historiques. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'à mon avis, d'ici 2023, on en aura dépassé certains d'entre eux. Oui.
Bon, alors l'ambition, c'est donc de grossir en France. Ça va servir, j'imagine, à embaucher ces 200 millions de dollars et donc aussi à faire une expansion internationale.
Exactement, puisque beaucoup de gens pensent que les avantages salariés, c'est très franco-français, mais pas du tout. Le marché numéro un mondial, c'est le Brésil. C'est un marché qui est 4 fois plus gros que la France. Nous avons pour ambition de devenir un leader global. Donc forcément, on ne peut pas ne pas s'attaquer à ce marché aussi florissant. Et il y a également le Mexique. Et de manière générale, l'Amérique latine est un continent très fort. Et on souhaite en faire notre premier marché d'ici 2024.
Vous avez donc la levée 200 millions d'euros. Est-ce que vous êtes vous-même étonné en ce moment que plein de startups comme vous en France, on a fait à ce même micro il y a de cela quelques semaines Sorin qui cartonne dans ce qu'on appelle la technologie NFT, on a fait également Miracle qui est une plateforme qui offre des services pour créer des marketplaces aux entreprises. Toutes ces entreprises ont comme vous levé des centaines de millions d'euros ou de dollars. Est-ce que vous êtes vous-même étonné que ce soit, pardonnez-moi l'expression, hein, mais si simple en ce moment, en tout cas qu'il y ait autant d'argent pour financer nos startups françaises?
En fait, il y a un cumul de bonnes, d'un alignement des planètes hein, finalement, hein, qui arrive en ce moment. Je pense que, un, les marchés sont effectivement favorables, il y a beaucoup de liquidités disponibles en ce moment. Et deux, il y a surtout aussi un changement de paradigme et de mentalité. Et très tôt, on intègre le fait de créer des sociétés globales et mondiales, limite dans les tout premiers jours de la création de la société.
C'est que vous qui êtes né à Montpellier, vous êtes la première licorne de l'Occitanie, je crois. Dès le démarrage, il y a 3 ans et demi, avec vos équipes, vous êtes dit, on va être un leader mondial à un horizon assez rapide et il faut qu'on ait une vision mondiale tout de suite.
Je confirme. Alors, j'ai la chance d'avoir... Et j'en suis pas à ma première société, c'est ma deuxième. J'ai eu un premier succès avec une société qui s'appelle Tid, qui avait été une société d'hypercroissance qu'on avait revendue au bout de 6 ans. Mais là, oui, évidemment, j'avais envie de refaire la même chose, mais encore plus vite, dès le premier jour, oui.
Eh bien, bravo en tout cas et merci d'avoir accepté ce soir l'invitation d'Europe 1. Loïc Soubeyran, le fondateur de Soi, il était avec nous. Nous, on se retrouve demain à 22h20.
Merci à vous Emmanuel Duteil. On vous retrouve aussi demain à 13h pour La France Bouge sur Europe 1, exceptionnellement avec Carole Ferry. Et demain, vous parlerez rénovation énergétique. Votre invité sera le nouveau patron de Saint-Gobain.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons ensemble les unes de vos journaux pour demain matin, jeudi. À la une des Échos, l'exécutif cherche la parade contre la flambée des prix à la pompe. Une baisse de taxe de 5 centimes, c'est l'une des pistes envisagées, coûterait 2,5 milliards d'euros. Bruxelles prône pour sa part une réduction temporaire de la fiscalité sur l'énergie. Emmanuel Macron, tout sourire, en débardeur, bardé également de médailles autour du cou. C'est la première page de Libé demain, puisque les athlètes répondent dans Libé à Emmanuel Macron. Pour de l'or, disent-ils, il faut de l'argent. Après les récriminations du président sur le faible bilan des Français à Tokyo et face à ses ambitions pour les JO 2024 à Paris, eh bien les sportifs opposent le manque de crédits alloués au haut niveau durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Les suites du rapport Sauvé à la une de La Croix, les fidèles se mobilisent après la publication du rapport sur les abus sexuels dans l'Église. Les appels se multiplient pour repenser la gouvernance sur la place des femmes dans l'Église catholique. Il est 22h30, tout juste, vous êtes sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez et bienvenue également à Olivier Delacroix. Pour la libre antenne, Olivier.
Delacroix, c'est pour les intimes.
C'est vrai.
Non, c'est en Normandie qu'on m'appelait Delacroix.
Ah d'accord. Ok.
Oui, c'est joli.
Ouais.
C'est un petit diminutif mignon. Comment allez-vous, Alexandre?
Ça va très bien et vous?
Eh ben, écoutez, en pleine forme pour ces 2h30. Il me tarde
il
de
vous
retrouver
tarde.
Tous nos amis.
Eh bien, c'est à vous.
Et puis, on vous retrouve bien évidemment
avec
vous
plaisir.
Pour votre point sur l'info à 23h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.